On lit la parole de Dieu, 1 Thessaloniciens 5, 9. Alors bonjour à tous. Nous sommes contents de savoir qu'on peut de nouveau nous écouter sur Internet. On avait un peu perdu le contact. Je crois qu'il faudra que Richie mette sur l'écran le lien pour pouvoir se mettre sur firefox.com. Firefox, je ne sais pas quoi. Pour qu'on puisse tous écouter, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas. Encore, alors il faut les avertir. 1 Thessaloniciens 5, 9, si ça existe, hein. Est-ce que ça existe ? Oui. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions, enlevez le mot ensemble, afin que soit que nous vivions, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions avec lui. Pourquoi il y a le mot ensemble ? Parce que c'est afin que nous vivions ensemble, nous autres, ensemble avec lui. Ce n'est pas ensemble avec lui, ça serait une répétition. Vous comprenez ? On ne vit pas ensemble avec quelqu'un, on vit avec quelqu'un, mais on vit avec Jésus ensemble. D'accord ? Un seul cœur, une seule âme. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous. Est-ce que vous savez que la lettre aux Thessaloniciens a été écrite à Corinthe? Paul venait de terminer une mission en Macédoine et il l'a écrite vers 50-51 après Jésus-Christ. En fait, les théologiens s'accordent pour dire que cette épître est le plus ancien document chrétien qu'on puisse avoir. C'est intéressant de voir que dans le plus vieux document chrétien qu'on a, eh bien, il y a cette chose clairement annoncée. Paul exprime avec cette assurance qu'on lui connaît, sa conviction, c'est que c'est Dieu qui a pris l'initiative de notre salut. Il ne nous a pas destinés à la colère, il nous a destinés au salut. Dans sa lettre aux Romains, Paul parle aussi et montre aussi d'une façon très claire que la prédestination, elle est arbitraire. On dit toujours le libre arbitre. La prédestination est arbitraire. Qu'est-ce que ça veut dire d'après le dictionnaire? Ça veut dire que notre salut ne dépend que de sa volonté. Que le salut ne dépend pas d'une loi, de l'observance d'une loi, de l'observance d'une règle. Notre salut ne dépend que de son bon plaisir. Et tant pis pour ceux que ça choque. Cela ne dépend que de son beau plaisir, au dépens de la justice et de la raison. C'est ce que le dictionnaire dit au sujet de qu'est-ce que ça veut dire arbitraire. Cela ne dépend que de son plaisir, au dépens de la justice et de la raison. Souvenez-vous de ce que Paul écrivait aux Romains, chapitre 9, versets 13 à 18. Il dit, il est écrit, il cite les Écritures, Paul, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Qu'est-ce à dire ? L'apôtre Paul dit. Qu'est-ce à dire ? En français, on dirait, ça veut dire quoi ? Il dit, qu'est-ce à dire ? Dieu serait-il injuste ? Non, certes, non. Car il dit à Moïse, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde et j'ai pitié de qui j'ai pitié. Il n'est pas question de du vouloir ou de l'empressement de l'homme, mais de la miséricorde de Dieu. Ainsi, l'Écriture dit au Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et pour que mon nom soit proclamé par toute la terre. Ainsi donc, il fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. Alors, quand on lit ça, on a pris l'habitude de ces phrases et on les lit, puis on ne réfléchit pas vraiment. Et vous allez voir, on va dépiauter un peu ça, vous allez voir. Quand on lit ça, beaucoup se demandent, comment est-ce que ça s'accorde avec les insistances de Paul au sujet du salut par notre foi ? Alors, Paul affirme haut et clair que son évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle qu'il apporte lui, il ne le tient pas des hommes, son évangile, il ne le tient pas des hommes, c'est-à-dire, dans sa pensée, ça veut dire, il ne le tient pas des apôtres. Galates 1, 11 à 12. Oui, ce n'est pas les apôtres qui m'ont appris tout ça. Hein. Galates 1. Où sont ces Galates ? Oh, dans cette Bible, tout se mélange. Hein, parole. Galates 1, 11, 12. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été donné par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Il affirme que c'est une révélation, que ce qu'il nous dit, il l'a reçu par révélation. Ce n'est pas les apôtres qui l'ont raconté tout ça. Les apôtres ne l'ont même pas entendu dire par Jésus. C'est une révélation que Jésus lui a donnée. Et cette révélation qu'il a reçue tient compte de l'ancienne alliance, parce que c'est le même Dieu, donc ça tient compte de l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, il est déjà question d'élection. Et Dieu se choisit un peuple dans l'ancienne alliance, Israël, et dans ce peuple, il choisit des hommes, il choisit des femmes pour accomplir sa volonté. Et selon quels critères est-ce qu'il les choisit ? Aucun critère logique, humainement parlant, aucun. Il les choisit dès avant leur naissance pour faire certaines choses qu'on appelle bien et certaines choses qu'on appelle mal. La révélation de la prédestination que Paul a reçue est étroitement liée à celle de l'élection. La révélation de l'élection proclame et explique la libération et le destin d'Israël et tout ça par la relation privilégiée qu'Israël a avec Dieu, que Dieu a avec Israël, C'est une relation privilégiée, voulue par Dieu. Et la révélation de l'élection donne à l'histoire de ce peuple la dimension d'histoire sainte. C'est ce que tout le monde dit, c'est une histoire sainte, c'est une histoire mise à part. Par qui ? Par Dieu. C'est une élection. La révélation de l'élection donne à la révélation de la prédestination, en fait, quelque chose comme l'image d'une inauguration, c'est-à-dire ce qui était fait dans l'ancienne alliance, c'est l'inauguration de ce qui est fait dans la nouvelle alliance, si vous préférez. L'ancienne alliance, la révélation de l'élection, eh bien c'est la référence fondatrice de la révélation de la prédestination que nous avons dans notre nouvelle alliance. C'est clair ? Voilà que Jésus révèle ça à Paul. Est-ce qu'il en avait parlé quand il était dans son ministère terrestre ? Oui, bien sûr. Mais personne n'était capable alors de saisir la portée de ce que Jésus disait. Il ne comprenait rien. C'est vrai, il ne comprenait rien, les pauvres. Et Dieu rappelle continuellement à son peuple, juif, de l'ancienne alliance, son initiative pleine d'amour, la gratuité de son choix. Il ne dit, c'est pas parce que vous êtes mieux que les autres peuples, au contraire, vous êtes un peuple courraide, roide. Et il rappelle aussi à son peuple d'Israël son invitation à une réponse pleine de confiance, pleine de reconnaissance, pleine d'amour. Il invite son peuple à avoir foi en lui. On peut se dire, ah bon, alors à ce moment-là, le peuple est libre de manifester de la reconnaissance, de la confiance, de l'amour. Alors écoutez bien. Notre esprit, c'est cette partie sainte, cette partie divine qui est en nous. Notre esprit, il a été mis par Dieu dans ce corps qui était tissé dans le sein de votre mère. L'esprit qui est en vous, il sait, il vient de Dieu, il est éternel. Il sait que nous sommes aimés de Dieu. Votre esprit sait que vous êtes aimés de Dieu. Votre esprit sait que Dieu veut sauver quoi ? Votre âme. L'âme, c'est l'être. Votre esprit, il sait que Dieu veut sauver votre âme. Il est le sauveur de votre âme, pas le sauveur de votre esprit. Votre esprit n'a pas besoin d'être sauvé, il est à Dieu. Votre âme a été créée. Elle n'était pas à Dieu, puisqu'elle n'était pas créée, n'existait pas, mais elle était créée. Et elle a été créée par la volonté de Dieu pour être sauvée. Et votre esprit, il sait. Dieu veut sauver, notre esprit sait que Dieu veut sauver ce qui est, ce que nous sommes humainement. Ce que nous sommes devenus depuis que nous sommes sortis du sein de notre mère, depuis que nous avons, avec toutes les choses que nous avons apprises, avec toutes les expériences que nous avons faites. Dieu veut sauver cet être que nous sommes. Et que nous sommes en train de devenir aussi, parce que nous ne serons pas pareils dans 10 ans. Si Jésus n'est pas revenu, dans 10 ans, je ne serai plus comme aujourd'hui, physiquement, mais aussi dans la mentalité. J'aurai changé. Dieu veut sauver ça. Mon esprit ne change pas. C'est toujours le même, éternellement, comme Dieu. Toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est la partie divine qui est en moi. Notre esprit, il sait qu'aussi notre corps sera racheté. Que notre corps n'a pas encore été racheté, mais dans Romains 8, vous savez, nous savons que notre corps va être racheté à la fin. Pour le moment, il y a encore plein de trucs qui ne sont pas clairs. Mais notre être, notre âme, elle ne sait pas. Notre être ne sait pas. Pour savoir, il a besoin d'apprendre. Notre être, notre âme est créé et il doit apprendre. Pour connaître ces choses, il doit apprendre. Il faut que la connaissance parviennent jusqu'à vos oreilles, jusqu'à vos yeux, pour que cela entre en vous, dans votre âme, dans votre être, pour que vous appreniez ces choses, pour que vous les connaissiez. En fait, ce n'est pas à votre esprit que Dieu parle, c'est à votre âme. Notre esprit n'a pas besoin d'apprendre, il sait. C'est notre âme qui a été créée, qui a besoin d'apprendre. Comme vous avez dû apprendre, 1 plus 1 égale, vous avez tous bien appris, c'est bien. Vous avez besoin d'apprendre le plan du salut, le plan de la guérison, le plan de Dieu pour votre abondance, le plan de Dieu pour la transformation de votre caractère. On a besoin d'apprendre. C'est à notre âme que Dieu parle quand il dit « Aie foi ». Ce n'est pas notre esprit. C'est à notre âme que Dieu parle quand il dit « Donne-moi ton amour, observe mes lois », etc., etc., etc. Alors, voilà d'où vient la confusion dans ce désordre dans la pensée, la confusion, c'est dû au manque de connaissance. Ne pas savoir les choses que je viens de vous dire, eh bien, empêche de les comprendre. On ne peut pas comprendre une chose qu'on ne sait pas. On a besoin d'apprendre, et la plupart des gens ne savent pas, même parmi les chrétiens, ils ne savent pas la différence entre l'âme, entre l'âme et l'esprit, ça c'est très confus. La Bible dit « Marchez selon l'esprit et non selon la chair », c'est-à-dire selon l'être que vous êtes. Ne marchez pas selon l'esprit, mais selon la chair. Ne marchez pas, marchez selon l'esprit, mais pas selon ce qui a été créé. Ce qui a été créé, ne faites pas confiance à ce qui a été créé, ni en moi, ni en vous. Que votre âme, votre intelligence soit soumise à l'esprit qui est en vous. Et croyez. Que votre âme croit. Alors, comment croire? Eh bien, c'est un choix. C'est comme aimer. Tu choisis de croire. Voilà. Je décide, je choisis, je veux, je décide, et maintenant, désormais, je crois ça. Voilà. Je crois ça, je le veux. Ça se décide. Ça ne vous tombe pas dessus comme une conviction comme ça. Une conviction, elle s'acquiert. Une révélation, Dieu la donne. Mais la révélation a déjà été donnée à Paul. Il vous la communique et votre intelligence maintenant doit la prendre ou la refuser. La révélation ne vous viendra pas, elle a déjà été donnée dans la Bible. D'accord ? Donc la conviction, c'est vous qui l'acquérez, vous la prenez. Vous dites, je choisis de croire ça, je choisis de croire ce que Paul dit. Et flûte pour les autres, même si je suis tout seul, s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Choisis de croire Dieu. Votre esprit est de Dieu, votre esprit est Dieu, votre esprit est divin. Votre âme a besoin d'être sauvée. Alors c'est quand même pas à elle que vous allez faire confiance, à votre raison, à vos sentiments et à tous ces machins. Votre raison, aga. Votre âme, votre être créé, humain, votre être humain, crie à l'injustice et c'est normal, c'est normal. Paul le comprend très bien, c'est pourquoi il écrit « Dieu serait-il injuste ?» Il sait très bien qu'on va penser ça. Dieu serait-il injuste? Et il dit, certes, non, car, ah, on s'attend une réponse, car, non, Dieu n'est pas injuste, car quoi, Paul, car quoi, vas-y, éclaire mon intelligence, rassure-moi, rassure mon âme, car quoi, Dieu serait-il injuste? Non, certes, non, car, on s'attend à une réponse, humainement compréhensible, logique. Dieu serait-il injuste? Non, certes, non, car. Il n'est pas injuste, car il dit à Moïse, je fais miséricorde, à qui je fais miséricorde, et j'ai pitié, de qui j'ai pitié? Tu parles d'un raisonnement, toi. Vous trouvez que c'est non? Vous trouvez que c'est un raisonnement? On vient de le lire, on a tous dit amen, mais c'est absolument pas raisonnable. Est-ce que Dieu serait injuste? Certes, non, car Dieu a dit qu'il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Point. Ben, c'est encore plus injuste qu'avant, hein, humainement parlant. C'est pourquoi je disais au début, la prédestination, c'est arbitraire. Le Dico affirme, enfin le mien du moins, et c'est Larousse, arbitraire, qui ne dépend que de sa volonté ou dépend de la justice et de la raison. Voilà. Alors, ce que Dieu dit à son peuple d'Israël, il nous le dit aussi à nous, en tant qu'Église. « Je serai ton Dieu, tu seras mon peuple. » Dieu parle à tous, à tout Israël. Maintenant, il dit aussi, quelque part, « Tout Israël est-il Israël ? » Tous sont-ils de la race de Dieu ? Certes, non. Cependant, Dieu parle à tous de la même manière. Quand il était devant les foules, il parlait à tous de la même manière. Alors vous me direz, oui, mais à ses disciples, il parle autrement. D'accord, prenons les disciples. Devant les disciples, il parlait à tous de la même manière. Pourtant, il y avait Judas dedans. À Caïn, il a parlé de la même manière, sachant très bien qu'il était de la semence du serpent. Genèse 4:6. Et aujourd'hui, ben, il fait la même chose. Parce qu'il veut qu'un certain ordre règne dans ce monde, pour que ses enfants puissent y vivre dans une certaine sécurité. À partir de Jésus, Dieu a voulu qu'une civilisation judéo-chrétienne s'installe dans certaines nations pour qu'elles puissent être les guides des autres. Il a voulu cela pour arriver à ses fins. C'est lui qui a voulu cela. Vous pouvez croire que c'est par hasard que ça s'est passé comme ça? Pas du tout. Il a voulu cela pour arriver à ses fins, pour que l'histoire qu'il avait annoncée dans l'Apocalypse s'accomplisse à la lettre. C'était prophétisé, ça veut bien dire, comme on dit, c'était écrit. Paul avait la révélation de ça. Il avait la révélation que Dieu tient toutes choses sous son contrôle. De la même manière qu'il avait tenu toutes choses sous son contrôle dans l'ancienne alliance. Vous allez me dire, mais bon, là, ça m'apporte quoi moi, dans ma vie au quotidien de savoir ces choses? Eh bien, laissez-moi emmener vos pensées captives à Jésus-Christ. Laissez-moi emmener vos pensées captives à l'Esprit de Jésus-Christ, au Saint-Esprit. Écoutez ça. Est-ce que vous connaissez le nom, les noms, des 12 patriarches? C'est-à-dire des 12 fils de Jacob. Ce sont les 12 ancêtres des 12 tribus d'Israël. Où est-ce qu'on les retrouve dans l'Apocalypse? Autour du trône. Il y a les 12 patriarches, puis il y a les 12 apôtres. Ça représente l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. Ils sont là, autour du trône, vers le trône, en tant que régnant avec Dieu. Ces 12-là étaient-ils des saints, tels que la justice et la raison nous l'enseignent? Je vous rappelle que ce sont quand même ces chères personnes qui ont vendu Joseph aux Madianites. Ils voulaient le tuer, et puis après, non, ils ont changé, on va le vendre. Mais dis donc, leur propre frère, et c'est ça qui est autour du trône de Dieu? Bon, il y a un mot pour dire, mais ce n'est pas digne de le dire dans une prédication, ce mot-là. Disons que c'est des beaux cochons quand même. Quand on lit l'histoire de Joseph vendu aux Madianites, emporté en Égypte, etc., etc., on se dit, c'est le saint de l'histoire, il est saint, lui, il est formidable. Pourtant, dans la pratique, leurs mauvaises actions étaient contrôlées par Dieu. Joseph, la victime, le savait. Joseph, la victime, l'affirme. Il dit ça dans Genèse 45, 4, 5. « Je suis Joseph que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Coucou, c'est moi. Maintenant, je suis premier ministre, je vais vous zigouiller. » Non, pas du tout. « Je suis Joseph que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas. » Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Oh, ben je suis fâché de l'avoir vendu pour qu'il soit conduit ici. Oh, ben je suis tout malheureux, je suis tout affligé. Non, 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 ne soyez pas affligés, ne regrettez rien. Car c'est pour vous garder en vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Ah bon, c'est Dieu? Oui. Joseph savait que c'était Dieu qui avait fait tout ça. Il avait utilisé, il avait choisi, il avait prédestiné ces hommes pour qu'ils vendent leurs frères, afin qu'ils puissent être sauvés de la famine. Vous parlez d'une raison et d'une justice. Vous voulez tout comprendre. Les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. De même, frères et sœurs, le mal qu'on me fait, j'ai encore appris hier, avant-hier, qu'il y a quelqu'un là-bas au Burkina qui raconte encore des histoires sur moi et qui me salit. Le mal qu'ont fait certains frères et sœurs qui m'ont fait du mal, tout ça, Dieu l'a permis pour arriver à ses fins. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez que le mal que les frères et sœurs vous ont fait, c'est pour arriver à ses fins? Dieu a permis ça, Dieu a voulu ça, Dieu a arrangé ça pour arriver à ses propres fins à lui. Est-ce que vous croyez ça?
Oui, oui, oui.
Vous le croyez?
Oui.
Alors, si vous croyez, vous allez répéter après moi. Le mal que me font mes frères et sœurs est voulu de Dieu pour leur et mon bien. Allez, dites-le. Le mal que m'ont fait mes frères et sœurs est voulu de Dieu pour leur et mon bien. Encore. Le mal que m'ont fait les frères et sœurs est voulu de Dieu pour leur et mon bien. Ben alors pourquoi vous vous pétez? Pourquoi vous vous plaignez? Pourquoi vous murmurez? Pourquoi vous dites « Ah, oh, cette sœur machin, ah, oh, ce frère truc, oui, oui, oui. » Vous savez, si vous êtes spirituel comme Joseph, que, en fait, le mal qu'ils vous font, ils ne sont encore pas venus au point de vous vendre aux Madianites, que je sache. Eh bien, le mal qu'ils vous font est voulu de Dieu pour leur bien et pour le vôtre. La foi de Joseph, c'est la meilleure. Cette foi-là ne juge pas ses frères. Alors, ceux qui n'ont pas cette foi-là jugent tout le temps. Et ils veulent que je croie au libre-arbitre. Si le libre-arbitre, ça sert à ça, non, monsieur, j'en veux pas. Je préfère la foi de Joseph. Elle est bien meilleure. La foi, avec cette révélation que Dieu tient toutes choses dans ses mains, c'est la foi la meilleure. Elle ne juge pas ses frères. Elle ne condamne pas ses frères. Elle ne rouspète pas. Elle ne se plaint pas. Mais elle reçoit. Cette foi aide Joseph à recevoir ses frères avec amour. Et en plus, cette sorte de foi-là conduit Joseph à louer Dieu, à glorifier le nom du Seigneur. Et moi, je dis que ça, c'est le meilleur. Et flûte pour le libre arbitre qui conduit le christianisme là où il le conduit, dans les guerres et les machinations et tous ces trucs, et ces mesquineries, et c'est gna 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 gna, il m'a pas dit bonjour, gna 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 gna, il m'a fait ci, gna 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 gna, il m'a fait, on s'en fout. Faites comme Joseph, dites, c'est bien, tout est bien. Merci Seigneur pour le mal qu'ils m'ont fait. C'est bien, ça a une raison. On sera assis dans le royaume de Dieu tous ensemble. Comme les vendeurs de Joseph, ils sont assis tout près du trône. Hein. Ils sont plus près que vous du trône. Ils seront plus près que vous du trône. Et pourtant, qu'est-ce qu'on dit sur eux dans les églises? Joseph n'a pas dit de mal d'eux. Voilà la prédestination que je vous enseigne, mes frères et sœurs. Une prédestination révélée. Pas une révélation juste. Pas une révélation raisonnable. Ah non, 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 humainement parlant, ça n'est ni juste ni raisonnable. C'est une révélation divine. Ça n'est pas humainement qu'on se saisit de ces choses-là. Parce que nous ne sommes pas des êtres humains, nous. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Bien sûr, on vit dans des corps humains, mais on est plus que ça. Hein? Vous êtes des fils et des filles du Très-Haut, des fils et des filles de celui dont les pensées ne sont pas des pensées humaines. Alors, arrêtez de penser humainement, éclatez-vous. Faites sortir tout ça. Changez vos pensées. Regardez aux pensées de Dieu. Ou alors, regardez, ça va peut-être aussi vous exhorter. Où est-ce que les pensées humaines ont mené le monde? Vous aimez ça? Alors allez-y. Moi, j'aime pas ça. Je préfère les pensées de Dieu. Même si elles paraissent une folie pour ceux qui périssent. C'est la Bible qui dit ça. Élevez vos pensées, mes frères et sœurs. Élevez vos pensées et vous allez devenir ce que vos pensées seront. Votre âme est venue à la connaissance du salut. Vous en avez entendu parler, vous avez entendu le plan en 5 points ou en 6 points, ça dépend des pasteurs qui enseignent. Il faut maintenant que votre âme parvienne à la connaissance du pourquoi de son existence sur la terre. Pourquoi? Pourquoi j'existe? Pourquoi suis-je ici? Pourquoi ne suis-je pas né à Kikilma? Merci Seigneur. Pourquoi? Pourquoi suis-je ce que je suis? Pourquoi je ne suis pas Yvette Horner? Merci Seigneur. Pourquoi ce qui m'arrive? Il faut que la connaissance vous parvienne au sujet du pourquoi ce qui vous arrive. Pourquoi mes actes passés? Pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait? Tous ces pourquoi ont une réponse. Pas une réponse échafaudage de la raison humaine. Parce que alors là, si vous voulez faire un échafaudage humain au sujet de pourquoi je suis là, et pourquoi il m'arrive ce qui m'arrive, et pourquoi on me fait les vacheries qu'on me fait, pourquoi on me bénit, pourquoi je suis tellement aimé, et pourquoi je suis tellement haï, et pourquoi j'ai fait ci, et pourquoi j'ai fait ce mal, et pourquoi j'ai fait ce bien, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Si vous voulez un échafaudage, alors moi je suis le roi des échafaudages, je peux monter un machin branle. Extraordinaire. Moi non, on peut s'amuser, ça fait rigoler un moment, mais ça édifie pas. Le mieux, c'est la réponse de Dieu. Dieu te dit, tu es là par ma volonté. Tu ne pourrais même pas être ailleurs. Tu es exactement ce que j'ai voulu que tu sois. Tu ne pourrais pas être autre chose, même pas le millième d'autre chose de ce que tu es. Tu es ce que j'ai voulu. Et tu as fait tout selon mon plan, même tes péchés. Oh, Michel, là, alors, déjà avant, tu déraillais, mais alors là, maintenant, là, c'est plus le déraillement, c'est une catastrophe nationale, n'est-ce pas ? Internationale, même, puisque tu vas aller prêcher ça ailleurs, sur Internet, tout le monde va l'entendre. Quoi ? C'est Dieu qui est à l'origine du mal que tu as fait ? Oui, oui, oui. Vous acceptez bien hein, quand je disais que c'était que Joseph croyait que c'était Dieu qui avait dirigé ses frères à vendre. Hein? Vous acceptez bien ça. Maintenant, quand je vous dis le mal que vous avez fait, les péchés que vous les avez fait selon Dieu. Là, ça vous gêne un peu. Quoi, Michel, tu prétends que tu as péché selon Dieu? Oui, parfaitement. Je vous l'enseigne selon la révélation que Jésus m'a donnée. On va lire Jean 3. 19-21. Jean 3, 19-21. Texte ignoré, abandonné ou mal interprété. Voilà ce que le Seigneur m'a révélé. On peut le dire déjà avant. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue, c'est à partir de là que les gens sont, ils bâchent, hein, ils s'arrêtent à Jean 3, 16. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière du verbe est, haïr, détester. Quiconque fait le mal déteste la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Je vous pose une question. Quand on vient à la lumière, c'est qu'on est où? On est dans les ténèbres. Sinon, on ne vient pas dans la lumière, on est dans la lumière. Si on vient dans la lumière, c'est qu'on est dans les ténèbres. Et là, il est dit, Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. On peut agir selon la vérité dans les ténèbres. Jésus est la vérité. Il dit « Je suis la vérité ». Ça veut dire « Mais celui qui agit selon Jésus vient à la lumière. » Afin que ses œuvres, toutes ses œuvres, soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. J'étais dans les ténèbres, et là, ne connaissant pas Dieu, livré à moi-même, j'ai fait toutes sortes de choses, mais ces choses que Dieu a pardonnées, elles étaient faites selon la vérité, selon Jésus, et maintenant, elles sont manifestées, elles ont été confessées, portées à la croix, tout ça est purifié, et maintenant, je sais que tout cela a été fait selon Dieu, cela a été fait en Dieu, comme il est écrit là, parce qu'elles sont faites en Dieu, dans les ténèbres, elles étaient faites en Dieu, dans les ténèbres, et maintenant elles sont manifestées, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Une œuvre de mal, vos œuvres de mal ont été faites en Dieu, afin que pécheurs, vous soyez pardonnés gracieusement, sans aucune raison humaine, sans aucune raison logique, humainement. Vous, pécheurs, à cause des choses que vous avez faites dans les ténèbres, eh bien, Dieu a pu vous pardonner, montrer son amour. Quel amour extraordinaire que d'aimer des gens qui sont sans péché, qui sont parfaits. Non, il vous a laissé dans les ténèbres, vous avez péché, et de là, il vous a sorti par amour. Selon son bon plaisir, par sa grâce, il a fait surabonder le pardon là où votre péché abondait. C'est lui qui a voulu que vous péchiez afin qu'il puisse être celui qui vous pardonne. Et maintenant, il vous met dans la confidence, il vous dit les choses, il vous révèle les choses. Il vous en donne la connaissance. Mais il vous donne aussi la puissance. Quelle puissance ? De vivre d'une façon parfaite, sainte et merveilleuse. Ça se saurait. Il vous donne la puissance pour vous relever chaque fois que vous faites un faux pas. Il vous donne la puissance pour que vous ne perdiez pas courage après avoir fait un faux pas. Tout a un but. Alors, aimez la sainteté. Je sais que vous aimez la sainteté, je sais que vous désirez la sainteté, je sais que vous voulez ça, je sais que vous désirez tellement être saint, et puis vous dites « Oh !» Alors, occupez vos veilles à exercer votre âme à la soumission, exercez votre âme durant les jours que Dieu vous donne, avec quoi l'exercer ? Avec ce qu'il vous donne lui, le vouloir. Et le faire. Vous ne pouvez ni vouloir, ni faire autre chose que ce que Dieu veut. Alors, les frères et sœurs qui vous font du tort, qui disent des choses pas gentilles, qui font des choses pas gentilles, c'est parce que Dieu leur a donné ce vouloir et ce faire pour en tirer une grande gloire personnelle, lui, et pour vous apprendre certaines choses dont vous avez cruellement besoin, qui vous manque. Alors ne vous plaignez pas, ne murmurez pas. Ça concourra à votre bien, puisque vous aimez Dieu. Et votre frère et votre sœur qui vous fait des vacheries, ça concourra aussi à son bien, puisqu'il aime Dieu, elle aime Dieu. Il vous fait des vacheries, puis après, il n'est pas content de lui. Il n'est pas heureux. Il se met devant Dieu. Mon Dieu, je sais bien, voilà. Au fond de moi, je sais bien, j'ai eu tort. Bon, il ne viendra même pas vous le dire parce qu'il est orgueilleux en plus. Bon, mais c'est Dieu qui permet toutes ces choses. Quand ils sont arrivés, les frères, devant leur père, ils ont dit, ouais, il est mort, on a trouvé la tunique et tout. Mais en plus, ils vendent leur frère, après ils mentent, ils font du chagrin à leur père, ils racontent qu'il est mort. Mais c'est une horreur. Ils sont encore foncés davantage dans leur mal, dans leur péché. Et pourtant, c'était ce que Dieu avait prévu pour finalement en faire ces 12 qui sont là-haut vers le trône, que Jean a vu dans l'Apocalypse. Là là, quelle raison et quelle justice. Aucune humainement, aucune. Alors, consolez-vous par ces paroles. Consolez-vous par ces paroles. Ni vous ni les autres, vous n'êtes meilleurs les uns que les autres. On est tous pareils. On est tous pécheurs de par la volonté de Dieu, afin que Dieu puisse tirer gloire au travers de nous. Il vous donne le vouloir, vous aimez la sainteté, cherchez la sainteté. Avec ce vouloir et ce faire qu'il vous a donné, de toute façon, vous ne pourrez rien faire en dehors de la volonté de Dieu. Sachez-le, soyez tranquille, et surtout, bon, sachez que la puissance qui vous a été donnée, c'est la puissance pour vous relever après avoir chuté, mais aussi pour relever l'autre dans sa dignité une fois qu'il a péché, une fois qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Vous avez cette puissance, ça s'appelle l'amour. Ce n'est pas une puissance magique qui vous aide à devenir tout d'un coup, ping, monsieur propre, madame propre, non. C'est la puissance de l'amour qui vous permet de vous aimer vous-même. Et si vous vous aimez vous-même, vous pouvez aimer les autres. Si vous vous pardonnez vous-même, vous pouvez pardonner les autres. Si vous ne pouvez pas vous pardonner vous-même, c'est normal que vous ne puissiez pas pardonner les autres. Si vous ne pardonnez pas les autres, c'est parce que vous avez un problème personnel avec vos propres péchés. Il vous manque de la connaissance. Laquelle connaissance ? Ben celle que je viens de vous dire. Vous renclenchez le CD et vous réécoutez. Amen. C'est bon, non ? C'est magnifique, c'est magnifique. Moi, ça me met dans le calme. Alors, bien sûr, je suis obligé de me le redire, parce que là, on est charnel. Et alors, de temps en temps, on oublie. Alors, il faut revenir à ces choses, revenir encore. Et ça fait du bien. Aujourd'hui, c'est bien. Là, je vous le prêche une fois, mais ça va être passé, je ne sais pas combien, des centaines de fois. Vous allez pouvoir le réécouter tant que vous voulez. Et puis, vous fortifier avec ces choses. Il faut que ça devienne, il faut que ça soit une nourriture pour vous. On mange très souvent des patates. Pourquoi vous ne mangeriez pas très souvent cette prédication ? On mange très souvent des haricots. Pourquoi vous ne mangeriez pas très souvent cette prédication ? Moi, j'ai entendu. Ouais, c'est comme si vous disiez, ouais, ben, j'ai bu du vin hier. On peut en boire encore aujourd'hui, non ? Hein ? Oh, on a déjà dormi la nuit passée. On ne va pas encore dormir, c'est dit ? Moi, je serais plutôt du genre, j'ai déjà fait de l'ordre il y a 3 mois dans mon bureau, pourquoi est-ce que j'en ferai encore aujourd'hui? Mais vous avez déjà entendu cette prédication? Réécoutez-la, puisqu'elle vous parle, puisque ça vous fait du bien, puisque ça soulève des questions, des choses et ça donne des réponses. Réécoutez-la, mettez-la de côté de temps en temps dans votre voiture, hop, vous glissez le CD et vous la réécoutez. Jusqu'à ce que ça devienne vous. La nourriture que vous mangez, ça devient vous. Les pensées de Dieu, à force de vous en nourrir, ça deviendra vous. Et vous serez beaucoup plus compatissant, comme Dieu, beaucoup plus gentil, comme Dieu, beaucoup plus juste, comme Dieu, non pas comme les gens. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus veut fortifier mes frères et sœurs. Merci pour l'intelligence que tu me donnes de ces choses. Et je te prie que les gens qui n'ont pas bien compris, qui pourraient être choqués, réécoutent ce message et se mettent à ouvrir leur esprit pour bien saisir et comprendre, afin de glorifier ton nom et d'aimer toujours davantage eux-mêmes et les autres. Au nom de Jésus, amen.
Croyez que vous êtes pécheurs et repentez-vous. Pardonnez-leur, pardonnez-leur, et enseignez-leur comment vivre en paix, savoir regarder d'abord son propre cœur, en ôter la noirceur, puis répandre la joie partout autour de soi. Que mon Dieu m'a donné.